Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons commencé la dernière fois avec la première partie du cours qui vous propose une herméneutique fondamentale. Je pense qu'on a déjà un peu compris pourquoi herméneutique fondamentale, une esquisse, évidemment. Il s'agit de répondre à la question, la foi chrétienne, c'est quoi? Et au fond, le problème que j'ai posé dès l'introduction à ce cours, c'est que la réponse à cette question n'est pas exactement la même à tous les moments de l'histoire et dans tous les lieux. Et on peut dire qu'avec le 19e et le 20e siècle en particulier, il y a une sorte de concentration sur l'essentiel qui se fait, parce que jamais auparavant, la tradition chrétienne s'est affrontée avec une telle force à la pluralité culturelle, parce qu'évidemment, il y a la globalisation, il y a la pluralité des cultures, et au fond, à la pluralité aussi des histoires. L'histoire de l'Amérique latine n'est pas l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique n'est pas l'histoire de l'Inde, et des grandes civilisations orientale. Et du coup, je dirais, au moment où l'Église commence à prendre conscience de cela, au moment du Concile Vatican II, elle est interrogée sur son propre fondement, avec une très grande radicalité. Et ça nous conduit évidemment vers ce concept de l'auto-révélation, de l'auto-communication de Dieu, que j'ai développé la dernière fois dans la première partie, dans le premier chapitre. Et donc le premier chapitre était au fond une manière de vous conduire immédiatement vers le centre. Alors autour, je dirais les trois points, je vais très brièvement les reprendre parce qu'ils vont nous accompagner, je vais les reprendre plusieurs fois dans cette première partie. Évidemment, la double exigence d'abord, identité et recevabilité. Voilà. Double exigence qui est l'exigence de toute communication. Simplement, c'est ça tout simplement, mais tout le problème est là. C'est-à-dire, l'identité chrétienne fait intervenir le nom de Dieu. Du Dieu unique. Et donc, recevoir Dieu lui-même, j'ai essayé de vous faire sentir un peu la dernière fois, c'est-à-dire, la tradition chrétienne ne nous confronte pas uniquement avec le Dieu unique, mais elle veut nous faire accéder à l'intimité même de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est impossible, sinon au prix d'une conversion radicale. D'une conversion, et qui est à la fois impossible et possible au possible, et impossible à l'homme. Donc, Dieu lui-même, c'est ça l'identité. Quand Dieu lui-même vient, dans son évangile, l'homme est appelé à se tourner vers lui, et donc à se retourner, un peu comme Marie-Madeleine, au moment du récit de la résurrection, voilà, se retourner. C'est la conversion. Mais il n'y a pas de conversion sans recevabilité. D'une certaine manière, Dieu et l'homme doivent parler une langue commune. Si Dieu vient, il faut que l'homme puisse l'entendre. Il ne vient pas comme une bombe, vous voyez. Alors, ça c'est le cœur du prologue de Saint Jean. Il est venu parmi les siens. Il est venu dans ce qui lui appartenait. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Donc ça veut dire, il était déjà là avant qu'il soit venu. Il était déjà là avant qu'il soit venu. Voilà. Donc vous voyez, là, il y a ce lien intime entre identité et recevabilité. Quand Dieu vient, il se rend recevable. Il se rend recevable. Ça fait partie de l'identité même du christianisme, la tradition chrétienne. L'incarnation, pourrait-on dire. Alors, il y a tout de suite une difficulté de fond qui émerge, et c'était mon deuxième point. Et au fond, je dirais, toute la théologie fondamentale depuis le XVIIIe siècle se bat avec cette difficulté, qui paraît d'abord sous la figure de l'historicité, l'existence humaine est historique, donc diversifiée, la naissance de la conscience historique, et maintenant avec la postmodernité, c'est-à-dire l'idée du pluralisme, l'expérience du pluralisme radical. Et ça nous conduit vers un dilemme, je dirais, et c'est encore éprouvé souvent comme un dilemme, comme, je dirais, lors du synode, je dirais. Quel est ce dilemme? Je vous relis à la page 14, les points 1 et 2, tout à fait en bas. Si l'on prend au sérieux la pluralité des cultures, comment dire le caractère transculturel de l'identité chrétienne? Comment celle-ci peut-elle maintenir son identité, la tradition chrétienne, comme une identité qui traverse toutes les cultures, toutes les frontières? Comment la proposition de la foi peut-elle rester fidèle à ce qu'elle est, tradition de Dieu, l'évangile de Dieu en Jésus-Christ? Voilà, ça c'est le premier versant. Si vous allez jusqu'au bout de l'inculturation, alors est-ce que le christianisme ne devient pas, comment dire, finalement un phénomène culturel de telle ou telle culture? Qu'est-ce qui permet qu'il y a transculturalité, qu'il y a reconnaissance et qu'il y a finalement encore une même identité? De Dieu dépasse radicalement toutes les cultures, tout en y entrant. Si la tradition défend son identité comme identité transculturelle, donc je vous donne les indicateurs, entre parenthèses, comment respecter l'exigence première de la recevabilité de la tradition? Et si l'on pousse jusqu'au bout l'identité transculturelle de la tradition, l'Église n'exerce-t-elle pas une violence destructrice sur les cultures particulières? On l'a parfois accusé de cela. Finalement, ne pas donner une image violente de Dieu. Voilà, si vous voulez, un peu la difficulté de fond, le dilemme, et donc la tentative, au fond, je dirais, de réconcilier révélation-histoire en considérant cette tension comme une chance, comme une chance. Et donc c'est toute, je dirais, la réflexion à la page 15, j'y reviens très brièvement, donc le troisième et dernier point, je dirais, de ce chapitre, qui tente, j'ai utilisé déjà le terme de concentration. Donc, l'identité chrétienne est extrêmement complexe, évidemment, et nous allons la voir, nous allons le voir, je dirais, dans la suite, très rapidement. Mais il y a en même temps cette tentative, à partir du XIXe siècle, du Concile Vatican I, et ensuite pendant le Concile Vatican II, avec grande force, de recentrer les choses sur l'essentiel. Dieu n'a rien à nous révéler de ce que nous pouvons savoir par nous-mêmes. Il n'a qu'une seule chose à nous dire, ce que veut dire le concept d'auto-révélation, d'auto-communication, lui-même et lui-même comme destinée de l'homme et de l'humanité. Et donc, c'est à la fois une concentration et, comme je l'explique dans la suite, une sortie de toute confusion possible, de toute confusion possible, de toute concurrence même possible, parce que la confusion conduit à un moment donné ou à un autre vers une concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre les génies humains et l'intimité de Dieu. Voilà. Il n'y a pas de concurrence. Alors du coup, comment dire, si on prend cela réellement au sérieux, voyez. Et si on introduit aussi, je dirais, l'aspect définitif de la révélation, qui est impliqué dans le concept du Concile Vatican II d'auto-révélation et d'auto-communication. Dieu ne peut pas communiquer plus grand que lui-même. Et du coup, on comprend pourquoi le Concile dit « il n'y a pas d'autre révélation ». Il n'y a pas d'autre évangile, dit l'épître aux Galates au début. Et si quelqu'un vient en mon nom, dit Saint Paul, et qui vous annonce encore un autre évangile, sachez bien, il a tort. Voilà. Il n'y a pas d'autre évangile. C'est-à-dire, une fois que Dieu a tout donné, il ne peut pas donner autre chose. Donc, il y a l'aspect définitif aussi, une fois pour toutes, qui est impliqué dans l'auto-révélation de Dieu. Et alors, j'ajoute encore dans ce petit point que c'est finalement, et c'est ça la grandeur, au fond, du 19e et du 20e siècle, de la conscience historique. C'est la conscience historique qui nous conduit finalement vers cette ultime concentration, comme je le disais tout à fait au début de cette séance de ce soir. Et du coup, nous comprenons que dans cette conception de l'auto-révélation et de l'auto-communication de Dieu, la recevabilité est impliquée. Elle n'est pas en concurrence, mais elle est impliquée. Elle émerge précisément ici, au centre même de l'identité chrétienne, comme une exigence herméneutique. L'identité même de la tradition chrétienne, sa forme, sa figure, pourrait-on dire, hein, sa structure ultime, n'est-ce pas, qui est l'autocommunication de Dieu, doit être présentée de telle manière que l'homme d'aujourd'hui puisse la recevoir au cœur de sa liberté. Dieu ne peut s'adresser qu'à la liberté humaine. Sinon, il ne s'agit pas d'une autocommunication libre, libre de Dieu adressé à la liberté humaine. Voilà, donc c'est encore une fois une première esquisse, et à partir de cela, évidemment, si on insiste sur la recevabilité historique et culturelle, il faut retourner à l'histoire. Et donc regarder comment, au fond, je dis à la tradition chrétienne, d'abord biblique, et ensuite dans la suite, a-t-elle géré, au fond, cette question ? Et elle a géré d'une manière absolument géniale, si je puis dire, en trouvant des mots centraux, des mots qui disent le tout, des mots qui disent le tout. Et donc déjà la dernière fois, on a commencé à visiter un peu ce vocabulaire historique, biblique, et où au point de départ, il y a évidemment l'idée de la voie ou de l'accès. L'accès étant tout à fait central, c'est-à-dire, c'est pas uniquement une voie parmi d'autres, mais une voie qui donne accès à l'intimité de Dieu. Alors, la Trinité est déjà impliquée dans cela. On va le voir plus tard. Déjà, elle est impliquée. Parce que Dieu, l'homme ne peut pas se donner accès lui-même à Dieu. Il faut que Dieu lui-même vienne donner accès à lui-même, par son Fils et dans l'Esprit. Voilà. Alors ensuite vient le triangle central, j'ai commencé par là très rapidement la dernière fois, les trois termes que Paul va d'ailleurs relier, évangile, mystère, révélation. Donc là, petit effort pour comprendre à la fois, je reviens plus en détail maintenant aux références, j'espère que vous avez pu un peu regarder les références vous-même. D'abord donc, j'ai commenté un peu le terme évangile de Dieu. Voilà. Évangile, qu'est-ce que c'est l'évangile ? Pourquoi évangile ? Et pourquoi Dieu est ici intimement lié à ce mot, évangile ? L'évangile de Dieu ou Dieu comme évangile. Voilà. Alors peut-être faut-il surtout repérer le point 4 que je n'ai pas encore abordé, et qui est relié, si vous regardez un peu plus haut, tout à fait au début, le point 2. Je commence par le point 2. Comment celui qui a annoncé l'Évangile est-il devenu lui-même l'Évangile annoncé ? Voyez, si vous regardez les textes, les Évangiles, ils retracent tous au fond ce chemin. Jésus paraît d'abord comme l'évangéliste lui-même, qui vient en Galilée et qui annonce donc l'Évangile de Dieu, c'est-à-dire la proximité absolue du règne de Dieu. Convertissez-vous, évidemment. J'ai déjà expliqué ça dans le premier chapitre. Il n'y a pas d'évangile sans conversion, pas d'évangile de Dieu sans conversion. Et le moment est là. Et donc, on poursuit, je dirais, l'ensemble du récit. Et le récit évangélique de Marc, par exemple, qui est le premier, nous montre comment celui qui annonce lui-même l'évangile est finalement reconnu comme étant lui-même l'évangile. Et voyez, ça indique déjà quelque chose qui sera tout à fait central pour nous dans la suite, où se relie la question du quoi et du pourquoi, c'est-à-dire le problème de l'annonce de l'évangile, c'est que celui qui le fait d'une manière crédible. Et donc on ne peut pas séparer l'annonce de l'évangile et celui qui l'annonce. C'est tout notre problème. C'est pour ça que nous commençons les célébrations eucharistiques par la reconnaissance de notre non-crédibilité, de notre péché. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous faisons quand nous annonçons l'Évangile. Mais le récit évangélique nous raconte précisément comment Jésus de Nazareth, annonçant l'Évangile, l'a rendu crédible, cet Évangile, par toute sa propre existence, par parole et acte. Et donc apparaît déjà dans le récit, progressivement, cette identité entre l'Évangile et l'Évangéliste. Entre l'Évangile et l'Évangéliste Jésus. Voyez la formule. L'identité est formée de l'Évangile et de celui qui l'annonce de manière absolument crédible. On va revenir évidemment à cette question dans la deuxième partie. Et du coup, après la résurrection, on en parlera, évidemment, les apôtres, les douze et les disciples ne vont pas seulement annoncer l'Évangile comme Jésus l'a annoncé. Ils vont continuer à le faire comme lui l'a fait, mais en même temps, ils vont le faire en son nom. Et pourquoi en son nom? Parce qu'ils ont découvert avec lui que c'est lui. Non pas seulement qui annonce l'Évangile, mais il est lui-même l'Évangile, la crédibilité de l'Évangile. Voyez, ça c'est l'itinéraire. Donc ça c'était le point 2. Donc je disais que Paul, au fond, fait une même expérience. Et du coup, vous voyez, va naître de cela la forme littéraire de l'Évangile. Le genre littéraire. Dans le troisième chapitre de cette partie, on va revenir d'une manière plus précise à ce genre littéraire. Parce que si d'un point de vue littéraire, le christianisme primitif a inventé quelque chose, c'est les bioi, comme on disait aussi à l'époque, les vies, les bioi de Jésus, les récits évangéliques. Des lettres, on a toujours écrit, des apocalypses qui existent aussi, mais on a inventé la forme d'évangile et qui raconte précisément, vous voyez, commencement de l'évangile, de Jésus-Christ et Fils de Dieu. Donc c'est à la fois l'Évangile dont Jésus est l'annonciateur, mais c'est aussi, dans cette formule, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est l'Évangile de Marc qui commence comme ça, c'est aussi lui qui est cet Évangile. C'est lui qui est cet Évangile. Et donc l'Évangile, c'est ce genre littéraire qui nous raconte précisément comment l'Évangile est-il venu dans notre monde à travers ce personnage de Jésus de Nazareth. Alors, j'ai déjà mis le doigt un peu sur l'importance extraordinaire de ce concept. Vous le retrouvez, donc je vous invite un peu à regarder ça chez Origène et le texte annexe 2 du Concile de Trente. regarder un tout petit peu. Donc, il commence par là. C'est le troisième décret du Concile de Trente, ou le quatrième, pardon, du Concile de Trente, en 1546. Et en débat avec le luthéranisme, le Saint-Concile œcuménique et général de Trente, légitimement réuni dans l'Esprit Saint, sous la présidence des trois mêmes légats, etc., garde toujours devant les yeux le dessein de conserver dans l'Église, en supprimant les erreurs, la pureté de l'Évangile. Donc, c'est le terme clé chez Origène et ici. Vous voyez, avec ce concept, prenez pas concept au sens abstrait du terme, concept de concipere, n'est-ce pas? C'est-à-dire, à un moment donné, avec un seul mot, on dit tout un processus. Tout un processus. La pureté de l'Évangile, qui promis auparavant parmi les prophètes dans les Saintes Écritures, a été d'abord promulguée par la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez donc, Fils de Dieu, ensuite par ses apôtres, auxquels il a ordonné de le prêcher à toute créature, comme étant, c'est magnifique, la source, elle est là la source, de toute vérité salutaire et de toute règle morale. Voilà, si vous voulez, je dirais le premier mot. Alors maintenant, pourquoi les deux autres mots? Pourquoi les deux autres mots? Pourquoi évangile ne suffit pas? Le mot mystère et le mot révélation. Et les deux mots, si vous voulez, sont comme les deux versants d'une pièce de monnaie. L'endroit et l'envers. Alors, l'envers, si je puis dire, mais vous pouvez prendre ça aussi dans le sens inverse, c'est le mystère. C'est le mystère. Donc, concept, je dirais, que le Nouveau Testament utilise pour la première fois au singulier. La littérature apocalyptique connaît déjà ce terme. Je vous préciserai ça tout de suite. Et le Nouveau Testament le conduit au singulier, le mystère. Donc, c'est Dieu lui-même en son mystère. Et il restera toujours mystère. Mais ce mystère est maintenant révélé. Maintenant révélé. Et ça, c'est l'autre côté. Voyez, c'est pas un mystère abyssal uniquement, Dieu en son intimité lointain, mais justement révélé. Révélé, ouvert, ouvert. Donc, les deux sont intimement liés. Pourquoi, je dirais, donc, c'est ma première question, et ensuite j'expliquerai un peu ces termes apocalyptiques, pourquoi faut-il les faire intervenir? Voyez, l'évangile de Dieu, il y a deux choses à dire que le Concile de Trente, dans le texte que je viens de citer, a déjà repris. Jésus n'est pas le premier à annoncer l'évangile, pourrait-on dire. Vous le trouvez déjà chez le prophète Isaïe, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit la dernière fois. Vous avez les références dans le dossier. Déjà chez le prophète Isaïe. Et d'une certaine manière, on pourrait presque dire, oui, il faut dire, l'évangile est annoncé depuis qu'il y a création. Depuis qu'il y a création. Le premier récit de la création, vous trouvez le oi, le bon. Ce qu'on pourrait appeler le proto-évangile. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Le problème n'est pas du côté de Dieu et de la création. Le problème, c'est du côté du récepteur. Du récepteur. C'est-à-dire, est-ce que dans notre récit, c'est toute l'histoire de la Genèse qui est absolument extraordinaire. Elle nous montre, dès le deuxième récit de la création, la difficulté de l'homme à entendre réellement ce bon. Mais on peut comprendre. On peut comprendre. Alors, comment tenir à la fois que Jésus a annoncé l'évangile de Dieu avec toute sa chair, en parole et en acte, définitivement, ultimement, et en même temps, c'est déjà annoncé. Vous voyez, il ne l'a pas inventé d'une certaine manière. C'est déjà présent. Les écrits prophétiques, justement, comme dit le Concile de Trente, les écrits prophétiques. Donc, il faut à la fois tenir que c'est déjà présent et c'est ultime, et en même temps, si c'est déjà présent, et si à un moment donné, le kairos, le moment est arrivé, vous voyez, c'est comme ça que commence le récit évangélique, le kairos est là, si ça arrive, ça concerne quand même Dieu lui-même. Ça concerne Dieu lui-même, l'évangile de Dieu. Et voyez, les deux mots, mystère et révélation, sont ici introduits pour qualifier l'évangile comme venant de Dieu, comme concernant Dieu lui-même. Et du coup, le christianisme n'est pas uniquement, comme disait le père Raner, une jésuologie, un retour à Jésus, mais la tradition chrétienne concerne la relation entre Jésus, l'évangélisateur par excellence, et Dieu lui-même. Et donc c'est ce lien-là qui est dit par le mot mystère et le mot révélation. Alors, une fois que j'ai expliqué ça, on va regarder un tout petit peu de près. La terminologie des deux mots est apocalyptique. Alors, est-ce que vous connaissez déjà le terme? Peut-être dans l'introduction à la Bible, vous l'avez déjà entendu. Apocalyptique, c'est pas uniquement l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse dans notre Nouveau Testament, le dernier livre. C'est toute une littérature de crise. Une littérature de crise qui est née évidemment après l'exil, et le terme apocalypsis veut dire révélation, justement. Une littérature de révélation. Et l'idée de la littérature de révélation, que je schématise un tout petit peu, vous voyez, on peut faire cette petite esquisse extrêmement simple. Peut-être que vous arrivez à lire cela. Donc, nous sommes sur la terre et le ciel. Donc, la révélation, c'est le ciel qui se déchire. Et vous avez bien, n'est-ce pas, au moment du baptême, ça, la déchirure du ciel, l'ouverture du ciel. Le ciel étant ce qui est réservé à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le peuple d'Israël, dans l'exil et dans les occupations subséquentes, finalement jusqu'à l'époque de Jésus, fait une expérience de décréation. Vous voyez, c'est pour ça que la flèche descend. Une expérience de décréation, comme si Dieu était absent de son peuple. Il n'y a plus de prophète, vous voyez, ça c'est un peu le cri. Décréation. Et donc, ce qui reste d'une certaine manière, c'est pour ça que je parlais de littérature de crise, et on va retrouver ça dans l'Apocalypse, c'est les martyrs d'Israël, ceux qui résistent, ou des figures de résistance, comme le Baptiste, comme les moines de Qumran, etc., les Esséniens. Et du coup, la révélation, c'est donc cette expérience subite que le ciel se déchire et qui arrive d'en haut une nouvelle création. Voilà ce schème, vous voyez, c'est une littérature de révélation qui met par écrit, et maintenant vient la formule qui est apocalyptique, mais vous connaissez tous de Matthieu, ce qui est caché depuis toujours, mais maintenant révélé. Ce qui est caché depuis toujours, depuis la fondation du monde, et qui maintenant est révélée. Matthieu 13, 34. Les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, vous voyez, ça, c'est la révélation. Donc, il y a des crises, je viens de le dire, et il y a les infidèles d'un côté, et de l'autre côté, des martyrs qui résistent. et la révélation est ce qui émerge subitement dans cette situation d'une décréation, d'une crise absolue, de ce qui est caché. Et l'idée ici, c'est au fond des figures du passé qui reviennent. Enoch, donc Baruch, etc. L'Apocalypse d'Enoch, de Baruch, etc. Donc ça, c'est la terminologie de la révélation dans la littérature apocalyptique et qui est donc liée à un témoignage, vous voyez, c'est le terme que j'ai déjà utilisé dans la première séance. Le témoin est le lieu, entre guillemets, de cette déchirure du ciel, d'une révélation. Et l'histoire du baptême de Jésus nous est racontée de cette manière-là, exactement. Voilà. Le ciel se déchire, il y a la colombe qui descend, vous voyez, et en même temps il y a la voix. La voix, ça fait partie de la révélation, tu es mon fils, la voix qui cite le psaume, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Voilà. Alors maintenant, le concept de mystère, donc vous l'avez normalement au pluriel, mais le Nouveau Testament le met au singulier. À vous, le mystère du royaume est donné, donc chez Marc, au singulier. Donc après, la parabole du semeur. Les autres synoptiques utilisent le terme toujours au pluriel, comme la littérature apocalyptique, mais je vous invite de voir une concordance. Chez Paul, donc qui est le premier de toute cette série de chrétiens, il insiste énormément sur la signification eschatologique du mystère. C'est à lui que nous devons cette triade temporelle, le mystère caché, maintenant révélé, ouvre un avenir. Et donc vous avez surtout cela dans la lettre aux Corinthiens, la première, vous voyez, nul n'a connu la pensée de Dieu, mais le Fils unique, non, ça c'est Saint Jean, voilà. Qui connaît ce qui est dans l'intimité de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu, mais à nous c'est révélé, voilà. Ce que l'œil n'a jamais vu, citation d'Isaïe, ce que l'oreille n'a jamais entendu, voilà, ce que le cœur humain n'a jamais perçu, voilà, ce que Dieu nous a révélé. 1 Corinthiens 2, 1, 2, 7, et se lit ici un autre terme, la sagesse mystérieuse, cachée et révélée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire Dieu sous la figure de la sagesse. Donc je vous donne les références, je dirais peu importe les détails, Paul élargit progressivement son vocabulaire, et vous avez une magnifique récapitulation au chapitre 15, verset 25. Je vous ai donné dans le point 3 la citation, parce que là vous avez le triangle central de tout. À celui, on est dans une doxologie, qui est la fin de la lettre, qui a le pouvoir de vous affermir selon l'évangile que j'annonce. Alors là, il faut bien entendre les deux choses que je viens de dire. À la fois, c'est l'évangile que Jésus lui-même a annoncé, et c'est l'évangile que Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est. Voilà. À celui qui a le pouvoir de vous affermir, donc il s'agit de Dieu, selon l'évangile que j'annonce, en prêchant justement Jésus-Christ, selon la révélation d'un mystère, gardé dans le silence durant des temps éternels. Mais maintenant, vous voyez, chez Paul, c'est le nun, le maintenant. Chez Saint Jean, c'est surtout aura, c'est l'heure. Dans les évangélistes, c'est le kairos, donc le temps est important. Mais maintenant, porté à la connaissance de tous les peuples païens par des écrits prophétiques. Ah, donc vous voyez, là, vous avez la récapitulation, les écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, pour les conduire. Alors là, c'est ma définition de la théologie qui est basée là-dessus, tout à fait dans le premier point du premier chapitre de l'introduction, pour, c'est-à-dire l'annonce est toujours pour l'écoute de la foi, pour l'écoute de la foi. Alors, dans les deux tarots pauliniens, colossiens et éphésiens, va intervenir ici, donc l'élément sapientiel va être, je dirais, va prendre beaucoup de force. L'intelligence va intervenir. L'intelligence du mystère. Notamment dans l'Épître aux Éphésiens, vous avez reçu l'intelligence. Vous pouvez reconnaître, dit saint Paul, mon intelligence, le Paul des Deutéropauliniens, n'est-ce pas? C'est devenu un pseudonyme, presque, pourrait-on dire. L'intelligence intervient, et du coup, avec un certain risque d'objectiver, vous voyez, dans l'Épître aux Romains, l'Évangile, hein, on ne peut pas le mettre en boîte, pour le dire un peu vulgairement comme ça. Vous ne pouvez pas mettre l'Évangile en boîte, parce que c'est quelque chose de relationnel, et c'est quelque chose qui est toujours lié à un ici et maintenant, c'est-à-dire à un écouter. Donc c'est un événement d'écoute. C'est pour ça qu'il faut le récit d'ailleurs, parce que... Mais quand vous faites intervenir ici un certain type d'intelligence, vous risquez toujours de définir et de dire « l'Évangile c'est ceci ou cela ». Et c'est inévitable, il faut le faire, mais il ne faut pas en être dupe, vous voyez. J'appelle cela objectivation. Et vous avez dans 6:19, dans l'Épître aux Éphésiens, donc cette formule magnifique, le mystère de l'Évangile. Donc vous voyez, on lit ici intimement le mystère et l'Évangile. Le mystère reçoit ici des dimensions cosmiques, et c'est dans l'Épître aux Éphésiens que l'Église est pour la première fois appelée comme une entité cosmique, universelle, et comme mystère. Comme mystère. Alors, je termine donc ce point B. Le triangle évangile, mystère, révélation reste décisif dans toute l'histoire du christianisme. C'est les trois mots voilà, que le Nouveau Testament a travaillé et articulé dans un ensemble. Et donc, quand vous répondez à la question « la foi chrétienne, c'est quoi ?», c'est la meilleure manière d'y répondre relativement rapidement. Relativement rapidement. Il fallait un peu de temps quand même pour expliciter les choses. Voilà. Donc, évangile, mystère, révélation, reste décisif dans toute l'histoire du christianisme. Le Concile de Trente ne connaît que la terminologie de l'évangile. Trente n'utilise quasiment jamais le terme révélation. Voyez là, on entre dans l'histoire. Le Concile Vatican I utilise le terme révélation et ne connaît pas le terme évangile. Et le Concile de Vatican I utilise aussi mystère toujours au pluriel. Alors Vatican II, la force, c'est là où on voit qu'il y avait les exégètes qui ont beaucoup aidé, rétablit l'équilibre du triangle. Dans Dei Verbum, vous avez les trois, révélation, mystère et évangile. Alors, la voix, évangile, mystère, révélation, et il y a un cinquième terme qui aura beaucoup d'effectivité dans l'histoire, c'est le terme doctrine. Alors, vous trouvez, je dirais, la première forme occidentale de ce terme, notamment sous la plume de saint Augustin. Je vous ai donné les dates pour élargir un peu votre culture historique. Et donc, c'est le célèbre texte De Doctrina Christiana. Donc, voyez, là, Augustin répond à la question « La foi chrétienne, c'est quoi ?» Et donc, il transforme cette question immédiatement. La doctrine chrétienne, c'est quoi? La doctrine. C'est une doctrine. Donc là, si vous voulez, on est sur le plan d'un enseignement. On n'est pas tout à fait sur le plan d'une initiation. Sur le plan d'un enseignement, d'un contenu. Et ce terme, à partir de saint Augustin, viendra évidemment un terme clé que vous retrouvez ensuite au début de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. quelqu'un tout à fait au début, et c'est le dossier, l'annexe numéro 7. Et donc, on va regarder, on va prendre quelques moments pour comprendre ce texte. Il y a une telle postérité qu'il faut bien comprendre ici comment va se créer une sorte d'alliance entre un terme et un autre. Voyez, parmi les cinq termes que je viens de vous proposer, chez saint Thomas, il y a l'alliance précise entre doctrine et révélation qui va se faire. Alors d'abord, juste un mot sur la grande structure de la somme théologique. Bon, on est en première année, il faut être le plus simple possible. Donc la somme théologique de saint Thomas, qui est inachevée, il est mort en 1274, sur le voyage de l'Italie vers le concile de Lyon, il est mort sur la route, et la dernière chose qu'il a dit, « Omnia palia sunt », c'est tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille face à l'expérience que je viens de faire. C'est magnifique. Donc là, on oublie toujours ça. Et saint Thomas a au fond un double type de théologie. Il y a la théologie universitaire, évidemment notamment à Paris, l'université de Paris, d'abord à Cologne et ensuite à Paris. Mais il a aussi une théologie expérimentale, pati divina, il appelle cela pati, hein, c'est le verbe expérimenter Dieu. Et ça c'est pour le couvent. Et à l'université, c'est donc la théologie rationnelle. Et ça, ça va donner la somme théologique avec ces trois parties. La première partie porte sur Dieu et la création. La deuxième partie, c'est un grand traité de homine sur l'homme. Et la troisième partie, c'est l'unique médiateur, le Christ. Et donc, la finale n'est pas finie. Voilà. Donc, Dieu... Trinité, Dieu un, Dieu Trinité, Créateur, l'homme, deuxième partie, telle que la philosophie peut l'aborder, la théologie, et ensuite, donc, les grandes vertus, ce qu'on appelle les vertus cardinales, et les vertus théologales, foi, espérance et charité, et finalement, le centre, troisième partie, le Christ. Et alors, dans chaque partie, vous avez ce qu'on appelle des questiones. Ah, ça, c'est magnifique, vous voyez, on est dans la procédure pédagogique. Des questions. Et à l'intérieur des questions, vous avez des articles. Et quand vous regardez tout de suite la première question, premier article, vous voyez, vous avez la structure, vous avez des objections, vous avez une réponse et des solutions. Alors, on va regarder un tout petit peu, le premier texte. Il semble qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir une autre doctrine que les disciplines philosophiques. Pourquoi faire effort, en effet, vers ce qui dépasse la raison humaine? Ne cherche pas plus haut que toi, nous dit l'Ecclésiastique. Or, ce qui est apporté de la raison nous est communiqué de manière suffisante dans les disciplines philosophiques. Il paraît donc superflu de recourir à une autre doctrine. Vous voyez, on a au fond, je dirais, deux doctrines ici, deux types de doctrines, les doctrines philosophiques et la doctrine chrétienne. Il y a de science que de l'être, etc. Bon, je n'entre pas dans les détails, c'est facile, je vous laisse lire ça, mais regardons maintenant en sens contraire. Saint Paul dit, vous voyez, la référence est l'Écriture sainte pour les objections. Toute écriture divinement inspirée est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Or, une écriture divinement inspirée n'a rien à voir avec les disciplines philosophiques, qui sont des œuvres de la raison humaine. C'est donc une autre doctrine. Celle-là, d'inspiration divine, a bien sa raison d'être. Et après vient la réponse. Il fut nécessaire pour le salut de l'homme qu'il y eut, en dehors des sciences philosophiques que scrute la raison humaine, voyez, c'est toujours ce jeu philosophie-théologie, philosophie et sa doctrine, théologie et sa doctrine, une doctrine procédant de la révélation divine. Là se fait le lien. Une doctrine procédant de la révélation divine. Le motif en est d'abord que l'homme est destiné par Dieu à atteindre une fin qui dépasse la compréhension de son esprit. Car, dit Isaïe, repris par saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, « L'œil n'a point vu, ô Dieu, en dehors de toi, ce que tu as préparé à ceux qui t'aiment. » Or, il faut qu'avant de diriger leurs intentions et leurs actions vers une fin, les hommes connaissent cette fin. Il était donc nécessaire pour le salut de l'homme que certaines choses, dépassant sa raison, lui fussent communiquées par révélation divine. Donc vous voyez, revenez à ma définition. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça s'inscrit quand même dans ce que nous avons entendu. Dieu n'a rien à nous révéler de ce que nous pouvons savoir par nous-mêmes. Il n'a qu'une seule chose à nous dire, lui-même, et lui-même comme notre destinée. Donc, comme notre fin. Donc, Thomas commence par ça. La fin de l'homme dépasse l'homme, le salut, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, et la révélation connaît cette fin. Et alors, à l'égard même de ce que la raison était capable d'atteindre au sujet de Dieu, il fallait aussi que l'homme fût instruit par révélation divine. En effet, la vérité sur Dieu atteinte par la raison n'eût été le fait que d'un petit nombre. Elle eût coûté beaucoup de temps. Donc, vous voyez, la tradition chrétienne, dit saint Thomas, c'est pas une affaire uniquement de raison. Parce que la raison pour arriver à Dieu, même un principe, Dieu, un monothéisme philosophique, c'est pour une petite élite. Voilà. Pour toutes ces raisons, il était nécessaire qu'il y eût, en plus des disciplines philosophiques, œuvre de la raison, une doctrine sacrée acquise par révélation. Donc, voyez, dans tous les termes que nous avons eus, voix, évangile, mystère, révélation, doctrine, ici, tout est centré sur la relation entre révélation et doctrine, et soulignez bien le terme instruction, ce qu'on va appeler plus tard modèle d'instruction. Alors on va regarder encore quelques instants le début de l'article 2. Toute science procède de principes évidents par eux-mêmes, ce que vous savez en mathématiques, on appelle les axiomes. Les axiomes. Or, les principes de la doctrine sacrée sont les articles de foi, qui ne sont pas de soi évidents, puisqu'ils ne sont pas admis par tous. La foi n'est pas le partage de tous, dit l'apôtre. La doctrine sacrée n'est donc pas une science. Au sens contraire, Augustin dit, à cette science appartient cela seulement par quoi la foi très salutaire est engendrée, nourrie, défendue, corroborée, rôles qui ne peuvent être attribués qu'à la doctrine sacrée. Celle-ci est donc une science. Et plus loin, elle procède en effet de principes. Quels sont les principes, les axiomes, si je puis dire, de la doctrine? C'est les articles du credo. Les articles du credo. Voilà, si vous voulez, je dirais, une première petite initiation très très rapide à saint Thomas. On ne va pas aller plus loin. Donc, on est au bout, si vous voulez, je dirais, de cette première, de ce premier petit parcours avec les cinq mots. Et donc, vous repérez déjà, à travers ce petit exercice, à quel point, quand vous avez cinq mots différents, avec évidemment un triangle central, que vous pouvez, retenez bien ce mot, pondérer les choses différemment. Pondérer, voyez, peser. Et on voit bien, Augustin opère une certaine pondération, et saint Thomas aussi, c'est-à-dire, on va vers la question de la doctrine. Vers la doctrine. Le Concile Vatican II va introduire la pastoralité de la doctrine. Vous rappelez de ça, le discours de Jean 23. Alors maintenant, deuxième point de ce chapitre, La réception du concept de révélation par les conciles Vatican I et Vatican II et le point A, le concile Vatican I. Je vous ai évidemment déjà pas mal parlé de ce concept, de ce concile, de son histoire, etc. Et maintenant, on va reprendre évidemment, je dirais, les textes. Et vous avez dans votre dossier l'ensemble, vous rappelez, c'est le dossier numéro, on va le retrouver, le dossier numéro 3 à la page 66. Suivant, vous avez donc l'ensemble de cette constitution qu'on appelle la constitution Dei Filius, de la foi sur la foi catholique. Et donc c'est à cette constitution qu'on va maintenant s'intéresser. Alors, la centralité d'abord du concept de révélation. Entendez bien maintenant centralité, c'est-à-dire c'est ce concept-là qui va prendre le dessus par rapport à tous les autres, les cinq. Interprété dans le cadre, ça vous le comprenez déjà aussi, de la distinction entre la nature et le surnaturel. Je vous avais dit, au siècle des Lumières, c'est le problème de la demonstratio christiana, donc le rapport par rapport à toutes les religions, la spécificité de la tradition chrétienne à l'époque, c'est d'être une révélation surnaturelle. Et voyez, au Concile Vatican I, on va transposer ce que vous avez lu il y a quelques instants dans l'article 1 de la Somme et on va le mettre dans la distinction entre naturel et surnaturel. La philosophie est d'ordre naturel, la tradition chrétienne apporte le surnaturel. Alors qu'est-ce que c'est la nature ? Il faut bien comprendre ce terme parce qu'il circule encore aujourd'hui. C'est la totalité du réel abordé à partir des sciences et de la raison. Et la terminologie qui vient ici, c'est toujours celle des causes, où parmi les causes, la première cause, c'est le principe de la nature. Elle a un principe et elle a une fin. Vous voyez, on est dans le vocabulaire médiéval des causes. J'entre pas maintenant dans l'ontologie médiévale, celle de Saint Thomas. Donc ça, c'est le vocabulaire. Donc on aborde le réel avec les sciences et finalement avec la raison. Et ultimement, et c'est l'enjeu de la philosophie, on s'interroge sur la cause et la fin du réel. La cause, on dirait plutôt aujourd'hui, l'origine. L'origine du tout réel. Attention, c'est pas le Big Bang. Il faut bien distinguer entre le commencement et l'origine. Le principe, c'est quelque chose de permanent. Voilà, de permanent. C'est-à-dire, tout le réel renvoie, est ouvert à un principe et à une fin. C'est ça la thèse. Alors, le surnaturel relève de la foi. Et donc, du coup, de la théologie et non pas de la philosophie. Alors, le contexte, je le redis, c'est précisément la sauvegarde dans une situation de forteresse assiégée, non pas seulement par la raison, une raison encore religieuse au XVIIIe siècle, mais par le positivisme. Alors, regardons un peu le plan du chapitre 2. Donc, vous voyez, le chapitre 1, il va nous parler de Dieu créateur et de toutes choses. Alors là, Dieu créateur de toutes choses, on a l'impression qu'on est sur un plan philosophique, mais en fait, on est déjà sur un plan théologique. Et dans le chapitre 2, vous avez les quatre premiers paragraphes qui sont décisifs pour nous. Et donc c'est ça le plan, c'est ça le terrain de la demonstratio religiosa et christiana. Les paragraphes, donc vous voyez, c'est bien délimité hein, dans le chapitre 2, vous pouvez rapidement regarder les paragraphes. Alors je vais rapidement les lire, au moins certains. La même Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose. Vous voyez, vous savez ce vocabulaire. Alors mettez ici, je conseille toujours ça, les virgules l'indiquent. Mettez entre Dieu, principe et fin de toute chose des tirets. Et à ce moment-là, vous comprenez. Donc, vous voyez, c'est Dieu entre guillemets. Je préciserai cela. C'est au fond que le mot Dieu qui est visé. Que signifie le mot Dieu? Qui existe dans toutes les langues, d'une manière ou d'une autre, ou ses équivalents. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, on indique un principe et une fin de toute chose. La même Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu, non pas doit être connu, ou est connu, mais peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine. Donc vous voyez, on est sur le terrain de la raison. La lumière, c'est une raison, la lumière. C'est magnifique, la lumière. Il faut pas oublier ça, la raison est une lumière. Ce qu'on oublie quand on dit que la lumière est uniquement, la raison est uniquement une faculté technique, vous voyez, technicienne, mathématique. Mais elle est une lumière. À partir des choses créées. Et on s'appuie ici, légitimement ou non, c'est pour le moment une autre question, depuis la création du monde, ses perfections, donc il s'agit de Dieu, invisible, se laisse voir à l'intelligence par ses œuvres. Romains 1:20. Cependant, alors voyez, on va passer sur le surnaturel. Il a plu, alors là on insiste évidemment, le bon plaisir de Dieu, voyez, il a plu. C'est la liberté de Dieu, le bon plaisir de Dieu. Il a plu à la sagesse, à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même. Ah, vous avez pour la première fois le réflexif se révéler. Et c'est l'unique endroit dans le texte où vous le trouverez. Ça va disparaître. Mais le Concile Vatican II va le reprendre et va en faire un concept clé. Il a plu à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même au genre humain et de révéler, alors là on entre dans le pluriel, les décrets éternels de sa volonté par une autre voie. Alors ça veut dire il y a deux voies, hein, tout le problème est là. Il y a la voie de la raison humaine, mais la raison humaine n'accède qu'à Dieu en tant que principe et fin de toute chose. Donc la raison humaine nous dit simplement le réel est ouvert. Le réel est ouvert, on peut traduire ça. Et cette ouverture, les gens l'appellent Dieu, dirait saint Thomas. Alors il y a une autre voie, et là c'est Dieu qui est le sujet de cette voie. Vous voyez, vous avez là le terme de la voie qui intervient quand même ici. La voie, par une autre voie, surnaturelle c'est là. Dieu a parlé jadis à nos pères à plusieurs reprises, les prophètes, et de plusieurs manières. En ces jours les derniers, il nous a parlé par son Fils. Le début de l'Épître aux Hébreux. Voilà le deuxième paragraphe. Et ensuite le troisième, c'est bien grâce à cette révélation divine que tous les hommes doivent de pouvoir. Donc voyez, ils ne doivent pas... faire ce qu'il va venir de dire. La nécessité porte sur la possibilité. La nécessité porte sur la possibilité. Comprenez bien cela. Ils doivent pouvoir, dans la condition présente du genre humain, connaître facilement, avec une ferme certitude et sans aucun mélange d'erreurs, ce qui, dans les choses divines, n'est pas de soi inaccessible à la raison. Donc, en Dieu, il y a quelque chose accessible à la raison. Et c'est justement cette ouverture. Ce n'est pas cependant pour cette raison que la révélation doit être dite absolument nécessaire, mais parce que Dieu, dans son infinie bonté, a ordonné l'homme à une fin surnaturelle. Donc ça, vous l'avez entendu sous la plume de saint Thomas, sans le vocabulaire surnaturel. Donc la destinée de l'homme, c'est l'intimité de Dieu, la destinée. Le texte ne dit pas de cette manière-là, mais il parle de la fin surnaturelle. Pour qu'il participe, l'homme, au bien divin qui dépasse absolument ce que peut saisir l'esprit humain, et voilà, comme saint Thomas, on cite, là, cette fois-ci, non pas Isaïe, mais la première aux Corinthiens, « Car l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni le cœur de l'homme conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Voilà, si vous voulez, je dirais les quatre premiers paragraphes. Alors, on va juste terminer le regard sur le plan, et après, on entre dans quelques détails quand même. Alors, vous avez donc le premier chapitre, la révélation, la démonstratio christiana, le point 1 à 4, c'est ça. Ensuite, voyez, le paragraphe 5, selon la foi de l'Église universelle, affirmée par le Saint-Concile de 37, révélation surnaturelle est contenue dans les livres écrits et dans les traditions non écrites. Alors ça, c'est la démonstratio catholica. Où est-ce que je trouve cette révélation? Vous vous rappelez de ça? Troisième démonstratio. Et c'est le paragraphe 6, le paragraphe 7, c'est aussi la démonstratio catholica. Vous biffez, s'il vous plaît, ça c'est vraiment un problème d'impression, le dernier paragraphe. Il n'a rien à voir là, c'est une faute, vraiment une faute d'impression. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors avec le chapitre 3, on continue la démonstratio christiana, mais cette fois-ci, on va se situer du côté de la foi. Qu'est-ce qui correspond à la foi, à la révélation surnaturelle? C'est la foi surnaturelle. La foi surnaturelle. Chapitre 3. Qu'est-ce que c'est la foi? Paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. Le paragraphe 4 vous indique le contenu de la foi. De plus, on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, etc. Voyez, ça c'est le paragraphe que vous avez biffé de l'autre côté. Il a ici sa place. Et ensuite, dans le paragraphe 5, vient l'Église, 5, 6, 7 et 8, c'est l'Église. C'est l'Église. Donc là, on est de nouveau dans la démonstratio catholica. Et avec le chapitre 4, dernier chapitre, vous avez évidemment le rapport entre les deux ordres, la raison, la nature et la foi. Le rapport entre foi et raison. Voilà, la pause est bienvenue et après on va rentrer encore dans quelques détails et on va s'engager vers le Concile Vatican II et on va voir ce que le Concile Vatican II a fait de l'écriture, de la tradition et du Concile Vatican I. Bien, on va prendre quelques instants pour encore pour entrer un peu davantage dans le texte lui-même et en essayant de percevoir les enjeux, je dirais, du texte. Donc d'abord, je dirais, le concept, donc on est à la page 17, le concept de révélation surnaturelle. Donc, je pense que vous avez maintenant compris quand même pourquoi on ajoute ce terme, révélation surnaturelle. Donc, il y a trois occurrences. Je dirais d'abord dans les paragraphes 1 et 2. Donc, dans le paragraphe 2. Vous voyez, là, il vient pour la première fois. Cependant, il a plu à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même au genre humain. Donc, on est dans le chapitre 2. Et de révéler les décrets éternels de sa volonté par une autre voie surnaturelle. Donc, la révélation comme une voie, et une voie surnaturelle, et une voie autre que celle de la lumière naturelle de la raison. Donc ça c'est, si vous voulez, je dirais, la première occurrence. Alors ensuite, vient une deuxième occurrence dans le paragraphe 4 où le terme surnaturel est fondé, la révélation est surnaturelle parce qu'elle touche à la fin, à la destinée de l'homme. Donc, vous voyez, c'est l'autre direction. La première direction, donc le surnaturel, se trouve sur les deux directions de la voie. D'abord, la voie qui va de Dieu vers l'homme, et ensuite, ici, de la voie de l'homme vers Dieu. C'est la fin qui est surnaturelle. Donc, l'orientation. Ça, c'est la deuxième occurrence. Et il y a encore une troisième occurrence. C'est le chapitre 3. Et tout de suite, le premier paragraphe, alors qui est un peu complexe, je vais quand même le lire. Et on peut résister aussi ici. Puisque l'homme dépend totalement de Dieu comme son Créateur et Seigneur. Vous voyez, c'est un raisonnement, puisque. Et puisque la raison créée est complètement soumise à la vérité incréée. On pourrait dire, je dirais, la raison humaine sous surveillance, pourrait-on dire. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire la raison humaine, si elle va jusqu'au bout d'elle-même, nous dit le texte, elle est ouverte à l'infini, à Dieu. Nous sommes tenus, lorsque Dieu se révèle, donc là, c'est utilisé de manière verbale, de lui présenter par la foi la soumission plénière de notre intelligence et de notre volonté. Cette foi qui est le commencement du salut de l'homme, l'Église catholique professe qu'elle est une vertu surnaturelle par laquelle, prévenue par Dieu et aidée par la grâce, nous croyons vraies les choses qu'il nous a révélées, non pas à cause, il faut du souffle pour lire ça, non pas à cause de la vérité intrinsèque des choses perçues par la lumière naturelle de la raison, mais à cause de l'autorité de Dieu même, qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Car la foi atteste l'apôtre et la substance de ce que nous espérons et la preuve de ce qu'on ne voit pas. Donc l'appui, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, hein, verset 1, donc cette sorte de définition. Donc là, c'est la foi qui est surnaturelle. Donc la voie qui va de Dieu vers l'homme, une autre voie, Dieu se révèle lui-même et il nous révèle apparemment aussi des choses. Voilà. Ensuite, la fin à laquelle nous sommes destinés. Et enfin, troisième point, la vertu, la foi est une vertu surnaturelle. Donc, il n'y a pas de foi sans l'intervention de l'Esprit Saint, la grâce. Voilà, si vous voulez, je dirais, ce concept, n'est-ce pas? Alors, on va peut-être pas regarder maintenant le chapitre 3, parce que je vais y revenir un peu en détail dans la deuxième partie du cours. Mais on peut au moins repérer le plan un peu. Donc, il y a la première partie, le chapitre a deux parties. Donc, c'est le paragraphe 1 du chapitre 3. Donc, paragraphe 1, 2 et 3. Le paragraphe 1, je viens de le lire, c'est la définition de la foi. Un peu complexe, compliqué, etc. Ensuite, le paragraphe 2 va nous dire que cette foi est conforme à la raison, demonstratio Christiana, elle est conforme à la raison, elle n'est pas contre la raison. La foi chrétienne n'est pas un sacrificium intellectus, comme on dit parfois, un sacrifice d'intelligence. La foi est honnête, est intellectuellement un acte honnête. Honnête. Et donc ensuite, le paragraphe 3, mais si la foi est raisonnable, bien sûr, elle ne peut quand même pas exister sans l'illumination et l'inspiration de l'Esprit Saint, qui est le sujet ultime de notre acte de foi. Paragraphe 3. Et ensuite vient la jonction entre les deux parties, le paragraphe 4, sur le contenu de la foi déterminé par l'Église. Donc là, on passe du côté de la doctrine, si vous voulez. Vraiment du côté de la doctrine. Et la deuxième partie, la forme ecclésiale de la foi. Alors, donc, on regardera ça un peu plus encore dans la deuxième partie. Et je crois que ça ne conduit pas très très loin de pousser trop, je dirais, l'analyse détaillée du texte maintenant. Mais je voudrais un peu conclure, si vous voulez, ce que j'appelle la grandeur du texte et les difficultés du texte. Les deux à la fois. D'abord, la grandeur du texte. Le texte réussit à sauver, à sauvegarder la révélation et la foi dans leur radicalité absolue. Et c'est ça la terminologie du surnaturel. Il s'agit, dans la foi, de la rencontre de Dieu lui-même. Lui-même. Et donc, ça suppose une distinction entre nos représentations de Dieu et Dieu lui-même. Voilà. Il s'agit de la rencontre de Dieu lui-même et de la rationalité interne de cet acte de foi et de rencontre. Vous voyez, c'est pas un acte arbitraire, la foi. Rencontrer Dieu en lui-même, son intimité, c'est pas le vocabulaire du Vatican I. Voilà. C'est pas un acte arbitraire. C'est un acte, je le disais à l'instant, intellectuellement honnête. Donc ça veut dire, c'est un acte libre. C'est une manière de dire la liberté de la foi. Quand Dieu vient à notre rencontre, pour le traduire d'une autre manière, il nous rejoigne au cœur de notre liberté. Alors cette liberté ici s'exprime évidemment volonté et intelligence à travers l'idée que la foi est un acte cohérent, aussi intellectuellement cohérent. En plus, il faut dire ici, le mot « Dieu » Et ça, c'est, si vous voulez, je dirais, le premier paragraphe du chapitre 2. Hein. Dieu peut être connu, ne pas doit être connu, peut être connu. Voilà. La même Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens minimal de ça, c'est que le mot Dieu doit avoir un sens pour tous. Si ce mot n'a pas de sens, alors évidemment, il est parfaitement absurde de parler pour quelqu'un pour qui le mot Dieu n'a pas de sens, il est absurde de dire que Dieu se révèle lui-même. Il faut déjà, vous voyez, ça c'est la première condition de recevabilité, que le mot lui-même, dans le langage humain, doit avoir un sens. Il y a au moins ça. Et ça signifie... Le mot désigne, c'est le sens minimal, l'ouverture de la raison et l'ouverture du réel. On pourrait dire, philosophiquement, le mot Dieu, peu importe, je dirais, les expressions, il faut toujours le mettre ici entre guillemets. Le mot Dieu a une fonction dans toutes les langues humaines, c'est l'antidote totalitaire, c'est-à-dire contre le totalitarisme de la raison et de la réalité humaine. C'est la trace dans les langues humaines d'une ouverture radicale, de notre contingence. Ça, c'est le minimum, vous voyez. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de révélation possible. Si nous avons accès par la raison humaine à la totalité du réel, comme prétend parfois le positivisme, quand on prétend que tout le réel est transparent et finalement un jour on pourra tout connaître, il n'y a plus d'être humain. Il n'y a plus d'énigmes, il n'y a plus de contingence. Espagna, le grand scientifique, a dit le réel est non transparent, il est voilé. Et parce que le réel est voilé, on peut parler de révélation aussi. Donc ça, c'est la condition minimale, n'est-ce pas? Et le texte va ajouter, il y a des signes qui garantissent le caractère raisonnable, recevable de la révélation. Il n'y a pas de révélation sans signe, comme manifestation. Mais voyez, quand vous dites signe, on va y revenir dans la deuxième partie du cours, le signe demande interprétation. Voyez, je veux dire, vous êtes passé au bord de la mer et il y a des traces de quelqu'un qui est passé. Alors vous vous interprétez, mais qui est passé, hein? Quand vous avez des traces dans la forêt d'un animal, alors vous allez reconnaître les pattes d'un chien, ou d'un sanglier, ou d'un cerf, etc. Vous interprétez. Il n'y a pas de trace, de signe, signe, trace, sans interprétation. Alors ça, c'est les forces du texte. Donc je redis, le texte réussit à sauvegarder la révélation et la foi dans leur radicalité absolue, c'est-à-dire il s'agit dans la foi d'une rencontre de Dieu lui-même et il s'agit de la rationalité, c'est-à-dire de la liberté interne de cet acte de foi et de rencontre. Bon, il faut peut-être ajouter ici un petit « de », n'est-ce pas ? Il s'agit de la rencontre de Dieu lui-même et de la rationalité. Le mot « Dieu » doit donc avoir un sens pour tous. C'est le sens minimal qu'on peut aujourd'hui donner au premier paragraphe, ce que le texte dans le langage de l'époque dit « principe et fin de toute chose », c'est-à-dire « tout le réel est ouvert à une fin, un principe ». Voilà. Il désigne l'ouverture de la raison et la rationalité interne de la foi, c'est une rationalité de trace à interpréter, des signes. Voilà. Alors maintenant les ambiguïtés. Alors les ambiguïtés, quand vous regardez notamment, je dirais, d'abord dans le chapitre 3, vous l'avez déjà un peu senti dans le premier paragraphe, j'aime bien parler ici d'une liberté sous surveillance. À la fois on affirme la liberté de l'acte de foi, mais en même temps, il est sous une obligation autoritaire. Vous voyez, le concept d'autorité a ici une énorme force dans le texte. C'est une raison soumise d'emblée. Vous avez continuellement le vocabulaire de la soumission. Alors, est-ce que l'obéissance est une soumission? Je ne suis pas sûr. Vatican II ne va pas traiter la question de la même manière. L'obéissance, obeditio en latin, vient de l'écoute. Voilà, de l'écoute. La foi vient de l'écoute, l'épître aux Romains. Mais n'est peut-être pas d'abord de l'ordre d'une soumission. Voilà. Donc là, il y a vraiment une ambiguïté. Et au fond, je dirais, la seule liberté, finalement, qu'on accorde à la foi, c'est de résister. C'est de résister. Je vais vous montrer le texte. C'est le chapitre, le paragraphe 3. C'est pourquoi, voyez, la fin du chapitre 3, la foi en elle-même, si elle n'opère pas par la charité, est un don de Dieu, et l'acte de foi est une œuvre qui a rapport au salut, par laquelle l'homme offre à Dieu lui-même sa libre obéissance. Est-ce que ça suffit pour dire la liberté? Le Concile Vatican II va être beaucoup plus radical. Il va dire quelque chose de plus beau, à mon avis, de plus vrai. Nous allons le voir, l'acte de foi est une œuvre qui a rapport au salut par laquelle l'homme s'offre lui-même à Dieu. Alors ici, il y a comme une sorte d'extériorité de la liberté par rapport à l'offrande. L'homme offre à Dieu lui-même sa libre obéissance en acquiesçant et en coopérant à la grâce à laquelle il pouvait résister. Donc, à la limite, je dis à la liberté, c'est uniquement une liberté de résister à Dieu. C'est-à-dire, on ne pense pas ici qu'au cœur même de l'acte de foi, il y a la liberté. La liberté, ce n'est pas uniquement un acte de résistance, de limite, un acte finalement de péché quand on résiste. Il y a cette ambiguïté ici. Alors ça, c'est l'ambiguïté du Concile Vatican I. Rappelez-vous du schéma que je vous ai proposé lors de la deuxième séance, où il y a cette vision du monde, avec un certain type de concept d'autorité qui est au centre. Alors le Concile Vatican II maintenant. Alors, Dei Verbum. Dei Verbum, donc vous avez aussi, je dirais, un certain nombre de paragraphes, mais je vous invite, après les vacances, vraiment de prendre vos textes conciliaires. Alors, je vous donne ici quelques références. L'histoire des dogmes, chapitre 13, donc il s'agit du quatrième volume. Mon ouvrage, La Révélation tout simplement, etc. Donc, quelques petites références. Je voudrais procéder maintenant de nouveau de la même manière, un petit récit au fond de la rédaction de ce texte, qui est très significatif, le contexte. De nouveau, la structure du texte, et ensuite, que veut dire révélation et foi à Vatican II? Et voyez, après l'évaluation que je viens de faire à propos de Vatican I, grandeur et difficulté du texte, je proposerai aussi, ce sera sans doute la prochaine fois, une première évaluation. Alors, le contexte. Vous avez, j'espère, encore un tout petit peu en tête, sinon vous allez relire ce texte, le discours d'ouverture de Jean 23, avec le magnifique titre « Gaudet Mater Ecclesia ». Elle se réjouit, notre mère, l'Église. Donc, vous l'avez dans le dossier que j'ai lu et commenté. Et j'ai retenu dans ce texte deux choses. Une vision du monde qui n'est pas une vision apocalyptique, mais plutôt sapientielle. Vous voyez, le pape, ici, Saint Jean 23, s'oppose ici à une vision, au fond, de l'histoire sous l'angle apocalyptique, au sens que c'est une histoire catastrophique, etc., de malheur. Mais il insiste beaucoup sur la présence de la sagesse et la providence au sein même de l'histoire. Donc ça, c'était un premier point. Et vous rappelez, il y avait un deuxième point. Il s'agissait du magistère pastoral. Le caractère pastoral de la doctrine, qui, dans ce texte, veut dire deux choses. D'abord, la première chose, donc, le pape dit, il ne s'agit pas de rajouter des doctrines à des doctrines. Il s'agit pas il n'aurait été pas nécessaire de convoquer un concile pour ça. Mais il s'agit de recevoir la doctrine telle qu'elle est dans son intégralité. Donc, le problème, ce n'est pas d'abord la doctrine en elle-même, mais c'est la réception. C'est l'idée de réception qui intervient ici. Et donc, on entre dans une relation entre la proposition de l'Église et les récepteurs. Donc, vous avez ici une conception relationnelle de la doctrine. Donc ça, c'est le premier point, la première insistance. Et ce qui va d'ailleurs vous conduire vers toute la structure relationnelle du corpus de Vatican II. Rappelez-vous les deux axes, l'axe vertical, l'axe de la révélation, et l'axe horizontal qui se croise dans l'Église, et l'ensemble des relations, les relations œcuméniques, les relations avec interreligieuses, les relations avec les cultures, avec l'État, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose qui se surajoute après coup. Voyez, à Vatican II et dans l'esprit de Jean 23, on n'a pas d'abord une révélation, et ensuite on s'interroge sur les relations. Mais la doctrine elle-même est relationnelle. Alors ça, c'est la première insistance. Et du coup, vient la notion de pastoral. Vous voyez, pastoral, c'est pas uniquement appliquer une doctrine, c'est pas du tout cela. Mais c'est de pousser jusqu'au bout la relationnalité de la doctrine. Et donc de l'exprimer de telle manière qu'elle soit recevable sans trahir l'identité même de la doctrine. Vous voyez, on revient à notre problème. Et c'est là où intervient la distinction du pape Jean 23 entre substance et forme. Alors, il y a un problème pendant la première période du concile, donc nous sommes en 1962, à l'automne, et comment recevoir ce discours. Et vous avez d'abord un premier texte sur la table, un texte à la fois hautement théologique et pastoral, c'est le texte sur la liturgie, qui va devenir Sacrosanctum Concilium, avec le débat pastoral sur la langue. Quelle langue ? Les langues vernaculaires. Vous voyez, si vous avez une liturgie universelle uniquement en langue latine, il n'y a plus de recevabilité. Parce que prier, c'est prier Dieu avec sa langue maternelle, avec son cœur. Donc c'est tout à fait significatif. Et ensuite, le deuxième texte, on est au mois de novembre déjà, c'est le texte qui à l'époque s'appelle « De Fontibus », les sources de la révélation, « De Fontibus ». Et ça, ça va enflammer littéralement le concile. Parce que qu'est-ce qu'il faut entendre derrière le « De Fontibus » Il faut entendre, je dirais, qui est l'idée d'une petite minorité des pères, mais aussi de la commission préparatoire, qu'il y a deux sources. Vous voyez, le célèbre est « Écriture et tradition ». Alors nous avons entendu au Concile de Trente tout à l'heure qu'il y a une seule source, l'Évangile. Mais l'Évangile sous forme de l'Écriture et de la tradition. Et du coup, la question, est-ce que la tradition rajoute quelque chose aux Écritures, oui ou non? Quel est ce rapport? Quel est ce rapport? Vous voyez, c'est au fond là la question. Alors, on rejoue d'une certaine manière le débat œcuménique ici, ou qui devient maintenant véritablement œcuménique. Alors, ça c'est donc, je dirais, le point de départ. Et on arrive au 20 novembre, et dans une sorte de situation, comment dire, extrêmement difficile pour le Concile, parce que si le Concile accepte le texte tel qu'il est, on ne peut que amender un texte qui est là, mais on ne peut pas le revoir de fond en comble. Et ce texte, il fallait le revoir de fond en comble, vraiment, totalement. Parce qu'il présupposait finalement une alliance intime entre révélation et doctrine, mais une alliance telle que, si vous voulez, je dirais, on ajoutait tellement, on insistait tellement sur le pluriel des doctrines, un peu comme à Vatican I, vous voyez, je ne vous ai pas présenté ça tout à l'heure, le passage au pluriel. Si vous analysez le texte du Concile Vatican I, il n'y a plus que le pluriel. Le singulier vient une ou deux fois, et sinon il s'agit des vérités. Donc on a l'impression, dans le texte préparatoire des Fontibus, vous avez d'un côté les Écritures, et ensuite vous avez toute une série de vérités que la tradition a ajouté au fur et à mesure, qui forme la doctrine catholique. Et on ne voit plus très bien le rapport entre l'Écriture et ces doctrines au pluriel. Donc on arrive au 20 novembre, vote. Et là, c'est où les canonistes et les stratèges conciliaires jouent. Parce que pour qu'un texte soit accepté comme objet de débat, il fallait qu'il obtienne 2/3. Alors tout dépend comment vous formulez la question, évidemment. Comment vous formulez la question? Est-ce que vous allez formuler la question tout simplement, le texte mérite-t-il d'être discuté? Alors vous avez 1/3 plus une voix qui peut refuser. À ce moment-là, le texte, en disant non, ça suffit. 1/3 plus une voix. Non, le texte ne mérite pas d'être discuté. Alors, on peut formuler les choses d'une autre manière, d'une manière absolument inverse, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut refuser le texte? Si vous formulez la question de cette manière, est-ce qu'il faut refuser le texte? Alors, évidemment, il faut plus qu'un 2/3 pour le refuser. Donc ça veut dire, il fallait que les pères conciliaires, pendant 5 minutes, comprennent qu'il fallait répondre oui pour obtenir le résultat de refuser le texte. Il fallait répondre oui sur sa petite feuille de vote pour arriver au résultat du non. Et il fallait 2/3. Évidemment, les 2/3 n'étaient pas obtenus. Alors, c'est la première crise du concile. Et c'est là où le concile trouve tout d'un coup sa liberté grâce à Saint Jean 23, parce que le lendemain matin, il y a la messe du Saint-Esprit, personne ne sait comment ça peut continuer, et donc le pape envoie son secrétaire personnel au secrétaire du concile, qui était, lui, pour qu'on continue le texte, il était obligé de lire le texte du pape qui disait « le texte est refusé », donc le texte a été éliminé, et désormais c'est une commission mixte qui doit refaire complètement le texte. Une commission mixte, c'est-à-dire la commission de la doctrine, qui avait forgé le premier texte, plus la commission œcuménique, le secrétariat pour l'unité des chrétiens. Et voyez, le texte actuel que vous avez, c'est là où on voit bien ce que c'est un travail conciliaire, mais il faut une autorité aussi qui écoute tellement pour pouvoir finalement entendre ici, au-delà de la formalité du vote, ce qu'il fallait faire. Et donc, ce texte Dei Verbum n'a été promulgué qu'en 1965. Ça veut dire qu'on a traîné pendant tout le concile ce problème des deux sources et du rapport entre la tradition et l'écriture. Et on arrive finalement à un compromis. Alors, regardons la structure du texte. Alors, vous avez donc dans l'annexe 8, vous avez un schéma. Et on va commencer par là, parce que c'est, si vous voulez, le plus clair. Vous avez deux schémas. Vous avez le texte, une partie du texte, et vous avez deux schémas. Voilà. On va commencer par là. Donc d'abord, je dirais, un schéma synchronique, vous voyez, qui vous donne la structure de l'ensemble de Dei Verbum. Donc il y a un magnifique préambule que je vais vous commenter, j'espère encore ce soir. Et ensuite, vous avez 6 chapitres. Donc la révélation elle-même. La transmission de la révélation divine. Deuxième chapitre. C'est là, il s'agit de la question clé de la tradition. Qu'est-ce que c'est la tradition? Comment comprendre ces « et » du Concile de Trente, écriture et tradition? Ensuite, l'inspiration de la Sainte Écriture et son inspiration, chapitre 3. Chapitre 4, l'Ancien Testament. Chapitre 5, le Nouveau Testament. Et chapitre 6, la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Alors, c'est un texte extrêmement riche et intéressant, donc je vous invite vraiment, éventuellement, de le photocopier en entier et de le travailler feutre à la main. Alors, les flèches que vous avez ici, je vais un tout petit peu les commenter, parce que il crée des liens, parce que tout l'art de lire, la première lecture, votre première lecture sera linéaire. Vous allez le découvrir de manière linéaire. Mais ensuite, évidemment, un tel texte, tellement mûri pendant 3 ans, c'est un texte qui a une structure interne, où les mots se répondent. Et donc, il faut progressivement découvrir cela. Et donc, je voudrais un peu à vous aider. Alors, ce qui est extrêmement frappant, je vais passer tout de suite au deuxième schéma. Ensuite, on va revenir un peu au premier. Parce que si vous comparez les deux constitutions Dei Filius, donc celle du Vatican I, et Dei Verbum, celle de la constitution de Vatican II, vous voyez tout de suite quelque chose d'extrêmement impressionnant qui s'est passé. Vous voyez, ce qui est quasiment nouveau, c'est le chapitre 3, 4, 5 et 6. Donc, tout se déplace vers l'écriture. Alors, dans le Concile Vatican I, vous voyez, je vous ai fait des allusions déjà tout à l'heure à cela. On s'appuie un peu sur l'écriture, mais l'écriture n'est pas vraiment le lieu d'inspiration. Alors à Vatican II, l'écriture devient vraiment ce que vous allez lire dans le chapitre 6, l'âme de la théologie. L'âme. Ce qui inspire l'ensemble du texte. Et du coup, vous avez pour la première fois, avec le chapitre 3, un long développement qui reprend, si vous voulez, il y a plusieurs encycliques, mais les réinterprète, n'est-ce pas? Celle que je vous ai déjà citée, Providentissimus Deus, 1893. Vous allez retrouver ça dans le chapitre 4 de la partie d'introduction. Divino afflante spiritu, 1943. Et surtout, évidemment, toute l'intégration de ce qu'on appelle aujourd'hui l'exégèse critique. Donc, l'inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation sous une double forme, c'est-à-dire à la fois une forme historico-critique, donc sous une forme critique, et sous une forme ecclésiale. Parce que le point important, c'est non pas uniquement d'analyser tel livre de la Bible ou tel élément historiquement, mais c'est la question de la théologie biblique, la totalité. Voilà. Donc vous allez lire ça. Et ensuite, alors, un chapitre sur l'Ancien Testament, un chapitre sur le Nouveau Testament, et finalement, ce qui est extrêmement important, le lien entre l'Écriture et l'Église dans la vie. Ça, c'est la partie pastorale. Et voyez, vous pouvez presque relire l'ensemble du texte selon le schéma que je viens de présenter, à partir d'en bas, à partir de la fin. Nous sommes, je dirais, des lecteurs de l'Écriture dans l'Église, mais pas uniquement, parce qu'on parle aussi des autres non-croyants, des incroyants dans le chapitre 6. Qu'est-ce que c'est cette Écriture? Elle est un Nouveau Testament greffé sur un ancien. Alors, ce Nouveau et cet Ancien Testament sont inspirés, mais il faut toujours les interpréter. Vous voyez, intervient ici l'historicité. Cette Écriture nous a été transmise quelque part. Et le Concile va nous dire, le cœur même de la tradition, retenez bien cela, le cœur de la tradition, c'est un très ancien concept de tradition, mais qui est repris ici, c'est de nous transmettre l'Écriture et de l'interpréter. La tradition est une interprétation continuelle des Écritures. Et voyez, à partir de la transmission, donc de cette transmission, de cette tradition de l'Écriture interprétée, on va remonter de nouveau, on va se demander, mais qu'est-ce que c'est la révélation? Voilà le texte. Alors, si vous regardez à gauche, Deiphilius, on procède d'une toute autre manière. Vous voyez, maintenant, c'est deux manières vraiment différentes. On est dans deux situations culturelles. On commence avec Dieu créateur de toutes choses, donc au fond l'approche naturelle, ensuite vient la révélation, ensuite vient la foi, et ensuite le rapport foi et raison. Alors l'Écriture est cachée quelque part là-dedans. On cite évidemment l'Épître aux Romains, et on cite surtout l'Épître aux Hébreux, si vous regardez de près. Quelques textes seulement, mais c'est pas l'Écriture qui détermine ici le rapport entre révélation et doctrine. Vous rappelez, c'est ça l'axe, n'est-ce pas? La révélation surnaturelle comprise comme une doctrine, ou plutôt comme un ensemble de doctrines qui forment une unité. Voilà le déplacement. Alors pourquoi les flèches qui vont de l'un à l'autre dans ce schéma? Vous voyez, tout ce qui est, nous allons le voir un peu plus en détail, sans doute après les vacances. Tout ce qu'on dit de Dieu créateur et de toutes choses, de la révélation, de la foi et raison, vous le retrouverez d'une autre manière dans le premier chapitre de Dei Verbum. Et le premier chapitre de Dei Verbum cite, notamment dans son dernier numéro, qui est le numéro 6, mais aussi dans les autres numéros, cite Vatican I. Mais on appelle ça d'un point de vue technique, retenez-vous ce terme, recadrage. Quand vous citez, on recadre, c'est-à-dire tout d'un coup on voit les mêmes choses d'un autre point de vue. Et c'est pour ça que je vous ai proposé tout à fait au début du cours à la fois le schéma du prologue de Vatican I qui est un cadre et un tout autre cadre à Vatican II. On passe de l'un à l'autre, c'est une autre vision du monde. Et vous avez des éléments du chapitre 2, 3 et 4 qui vont se retrouver évidemment dans le chapitre 2. Et c'est le chapitre 2 qui est, si vous voulez, le point de charnière entre les chapitres 3, 4, 5, 6 sur l'Écriture et le chapitre 1. Le point de charnière, c'est le chapitre le plus débattu pendant le Concile. Alors, ça c'était, si vous voulez, je dirais, le schéma synoptique. On revient maintenant à l'autre schéma. Et si vous voulez bien, on ouvre quand même encore pendant quelques minutes le texte lui-même. Et je vais commencer par le numéro 1. Je ne me rappelle plus si vous avez le numéro 1. Ceux qui ont le texte de Vatican II, l'intégrale ou autre chose, ils l'ont, ils peuvent le regarder, mais vous ne l'avez pas dans le dossier. C'était aussi pour vous inviter à acheter vraiment les textes. Alors, je vais vous lire ce magnifique prologue où vous avez déjà tout. En annonçant religieusement, en écoutant religieusement et proclamant avec assurance la parole de Dieu, le Saint-Concile fait sienne cette parole de Saint-Jean. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Fin de citation, 1 Jean 1, verset 2, 3. C'est pourquoi, suivant la trace des conciles de Trente et du Vatican I, il, donc le concile, entend proposer la doctrine véritable sur la révélation divine et sur sa transmission, afin qu'en entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit, et qu'en croyant, il espère, et qu'en espère, en espérant, il l'aime. Voilà, c'est un texte absolument génial, et qui a été achevé donc en 65. Et le relateur, donc dans un concile, il y a toujours un relateur qui propose le texte, et qui résume, et qui dit les difficultés, dit à ce moment-là, deux fois, c'est ça le véritable prologue du Concile Vatican II. Voilà, pour ça, il faut vraiment dire que Dei Verbum est au centre. Alors, bref commentaire. Vous voyez, au centre ici, il y a, vous pouvez relire ce texte avec mon schéma 1. On ne va pas le faire là, je vais plutôt le dire, mais faites ça chez vous. Voyez, on commence en écoutant. Le concile commence à écouter. Donc, on est dans un processus qu'on appelle processus kérigmatique, qui commence par l'écoute et ensuite, on peut seulement proclamer, annoncer avec assurance l'évangile qui est appelé ici parole de Dieu. Nous n'avons pas encore eu ce terme qui revient ici et qui devient tout à fait central et on va y revenir après les vacances. Donc, parole de Dieu. Donc, c'est le processus, vous voyez. En écoutant, on annonce et à la fin du texte, vous voyez, afin que, en entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit, qu'en croyant, il espère, qu'en espérant, il aime. Donc là, vous avez tout le processus kérigmatique. Écoute, annonce, en vue de ce que le concile ne peut pas faire, c'est-à-dire écouter, croire, espérer et aimer à la place du monde. Mais c'est ça, la finalité, la vue. Donc tout le processus que je vous ai inscrit dans le schéma 1, dans sa complexité. Alors comment le concile le fait ? C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, L'écriture est inspirante. Donc vous avez la première phrase, en écoutant religieusement et proclamant avec assurance la parole de Dieu, le Saint-Concile fait sienne cette parole de Saint-Jean. Donc le Concile écoute, il prend la parole, et il prend la parole pour immédiatement la céder et donner cette parole à un autre. Et vous avez cette citation en abîme. Ça, c'est la tradition. C'est exactement ça. Donc, l'Église prend la parole en écoutant, elle parle et elle cède la parole immédiatement à un autre. Ici, un texte tout à fait central de la première lettre de Saint Jean. Et voyez, regardez ça un peu avec vos feutres, il y a un jeu entre le « nous » et le « vous ». Le sujet, c'est le Saint-Concile qui fait sienne cette parole de Saint Jean. Et à ce moment-là, « nous », on ne sait plus très bien qui est ce « nous ». C'est à la fois le « nous » apostolique, mais c'est aussi le « nous » conciliaire. « Nous vous annonçons ». Alors ça, c'est les destinataires de Saint Jean, mais c'est aussi les destinataires du Concile. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, voilà, et qui nous est apparu, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec le Fils. Voilà, donc vous voyez, au cœur de cette annonce joannique et conciliaire, il y a donc le processus d'annonce et d'écoute, et ça produit la communion. En espérance. Et là, on va passer à un autre niveau dans la phrase suivante. C'est pourquoi, suivant les traces des conciles de Trente et de Vatican I, revenez à mon deuxième schéma. Les traces, vous voyez, le concile Vatican II s'inscrit dans les traces de Trente et de Vatican I. Qu'est-ce que c'est les traces? Mais il faut le prendre presque littéralement d'abord, c'est-à-dire c'est les citations. Mais évidemment, les citations, les traces de Trente, Vatican II cite Vatican I et Vatican II, ils se situent dans les traces, mais ils les regardent à partir d'un autre point de vue, d'un nouveau point de vue, le point de vue kérigmatique que je viens de vous montrer. Et maintenant va intervenir la doctrine. C'est pourquoi, suivant la trace des conciles de Trente et du Vatican I, il entend proposer la doctrine véritable sur la révélation divine et sur sa transmission, et on revient au kérigme, afin que, etc. Donc vous voyez ici, vous avez pour la première fois, avec une extrême précision, quelque chose qui va déterminer tout le concile, et évidemment le débat œcuménique, et tout le texte, un dédoublement. Il y a le processus kérigmatique, tel que vous l'avez dans le schéma 1, et que je viens de vous le lire. Et le dédoublement, c'est-à-dire la doctrine, c'est l'interprétation du processus kérigmatique à un moment donné. La doctrine sûre, vous voyez, et là vous voyez tout de suite la distance. Donc les prédicateurs se situent dans le processus kérigmatique et le concile va se situer dans le processus kérigmatique. Mais en même temps, le concile va produire ce qu'on peut appeler un discours, un métadiscours, un discours sûr, c'est-à-dire un discours régulateur, c'est la doctrine qui régule le processus kérigmatique. Voilà, si vous voulez, l'enjeu du texte. Et donc, on va passer encore quelques instants, juste quelques instants, et après, on va reprendre ça la prochaine fois. Et j'espère qu'après les vacances, parce que là, vous avez quand même une petite quinzaine de jours, donc la semaine prochaine, il n'y a pas de cours. Oui, non, mais entre maintenant... Je n'ai pas dit vous avez 15 jours de vacances, j'ai dit vous avez 15 jours entre aujourd'hui et le 4 novembre. Donc mon invitation c'est à lire l'ensemble de Dei Verbum, voilà, c'est ça. Et donc ça me permet dans nos commentaires de m'appuyer déjà sur une première connaissance. Mais une dernière remarque, vous avez sur le schéma qui vous donne l'ensemble du texte, ce schéma. Vous avez donc, vous voyez, préambule, annonce de l'Évangile. Et vous avez ensuite du modèle d'instruction vers le modèle de communication. Et je voudrais terminer par là. Je vous ai dit, Vatican I a un point de vue et qui est autre que le point de vue de Vatican II. Alors, quelle est la différence? C'est le passage du modèle d'instruction vers le modèle de communication. À Vatican I, l'Église se situe au centre de l'univers comme une Église qui instruit. Et pourquoi elle instruit? Parce qu'elle dit « Dieu m'a instruit ». Donc vous voyez la révélation, même s'il y a une fois ou deux fois le mot « Dieu s'est révélé lui-même », mais très rapidement, on passe du côté de l'instruction. La doctrine est une instruction. Dieu a révélé une doctrine. Dieu a instruit l'Église pour l'Église instruit l'humanité. Ça, c'est le point de vue de Vatican I. Et le point de vue de Vatican II, c'est ce qu'on appelle un modèle de communication. Le modèle de communication, c'est tout simplement celui de Saint Jean. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous, vous voyez, la communion, le terme de latin c'est societas. Donc l'enjeu c'est la societas, la communion entre le concile et ses destinataires. Mais cette communion, cette communication a pour but l'axe vertical de mon schéma, vous rappelez, le corpus conciliaire, la communication entre Dieu et nous, l'autocommunication de Dieu. Ça, c'est l'autre point de vue. On passe du modèle d'instruction vers le modèle de communication. Et vous imaginez bien que pour la catéchèse, le catéchisme, ça a des conséquences inouïes, inouïes. On passe d'un catéchisme d'instruction vers un catéchisme d'initiation. Et qu'est-ce qui a permis le passage de l'un à l'autre? C'est un nouveau rapport aux Écritures. Je reviens à mon point de départ. Vous voyez, dans la structure du texte, c'est ça qui est nouveau. Et ça n'a pu se faire que grâce, non pas seulement aux exégètes, mais parce que dans les tribunes, il y avait nos frères séparés, et notamment les luthériens et les calvinistes. Et donc, vous avez des textes précisément qui disent « il faut désormais argumenter et parler à partir de l'Écriture ». Et donc, vous voyez, la doctrine change de lieu. La doctrine, elle est toujours nécessaire, mais la doctrine est pastorale parce qu'elle régule le pastoral. Elle régule le pastoral. C'est de l'ordre du métadiscours. Voilà, j'espère beaucoup que vous ayez saisi un peu cela, mais je vous promets, après les vacances, dans 15 jours, on va le reprendre avant qu'on entre dans le dernier chapitre de cette première partie. Voilà. Donc, bonne semaine et ensuite, bonnes vacances.